Alors je vais décaler le regard, je vais pas prendre.
Pour le micro, ça ira, c'est bon. Il y a deux
plans là. Sinon, tout le monde m'entendait ou.
Donc Isaac, je vais décaler le regard. Enfin, je ne vais pas prendre frontalement ces questions d'acceptabilité, puisque les expérimentations et initiatives dont je vais vous parler, effectivement, engagent des actions, font des choses, mais sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable. En tout cas, est-ce que quelque chose qui arrive, ou des initiatives qui sont recommandées sont acceptables ou non. Donc je vais vous parler effectivement de transition écologique par le bas, puisqu'une question qui continue à se poser, c'est effectivement la recherche de leviers d'action face à des problèmes qui perdurent. Donc, vous avez tous remarqué effectivement que les problèmes d'environnement étaient loin de se réduire et de se résoudre. Et effectivement, c'est assez logique. Hein. Quand on essaye de prendre des initiatives pour régler ce type de problème, on est, comme vous l'avez remarqué, assez rapidement confronté aux logiques dominantes, celles du système économique, celles des circuits de production-consommation. Donc effectivement, les leviers d'action sont assez difficiles à trouver. Ce qui fait qu'effectivement, les problèmes sont encore largement présents. On est envahi, dirais-je, d'affichage d'engagement, de manifestations de volontarisme, certes, donc toute une série de beaux discours, mais là aussi, comme on peut le remarquer, les problèmes sont loin d'être résolus. Donc on a un dilemme qui persiste, qui est effectivement comment réduire les pressions environnementales sans mettre en cause le bien-être collectif. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Alors, moi, ce que je vais vous présenter, c'est justement pas ce que j'ai fait dans d'autres travaux, c'est-à-dire étudier à nouveau ces initiatives qui viennent du haut et qui viennent des institutions, celles qu'on peut résumer en disant qu'elles sont construites à travers les taux de marché. Moi, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est justement essayer de repérer les courants de démarche qui se construisent en dehors, qui peuvent prendre des aspects plus informels. Et c'est pour ça que j'ai parlé de. Alors peut-être pas transition écologique, mais en tout cas de toute une série d'expérimentations qui se font par le bas, et en dehors en tout cas des cadres établis, et en tout cas sans chercher des solutions technocratiques, technicistes ou économicistes. Donc l'enjeu de cette contribution, ça va être à la fois d'en présenter quelques-unes de ces initiatives, donc, ça va être sans doute un peu impressionniste vu le temps qui est imparti, et ce qui va m'intéresser aussi surtout, c'est de essayer de commencer à dégager ou à repérer les possibilités de convergence, de connexion entre ces différentes initiatives et ces différentes expérimentations. Donc pour l'instant, quelque chose qui ressemble beaucoup à une nébuleuse, dont on se dit qu'il y a des possibilités de rapprochement, et la question que je vais essayer de voir et de montrer un peu plus, c'est effectivement dans quelle mesure on peut articuler ces différentes initiatives et expérimentations. D'où la mobilisation d'un concept classique en sociologie, qui est celui d'idéal type, que j'emprunte évidemment à Max Weber, puisque l'hypothèse que je vais faire, c'est qu'effectivement, aussi éparse, aussi éparpillée que paraissent ces expérimentations, on peut considérer, et je considère, qu'on peut y voir la formation d'un système de valeurs qui est en train de se construire justement en dehors des logiques dominantes, et comme je disais, pas forcément en se souciant de ce que souhaite ou de ce que pense un certain nombre d'institutions. Donc, mon angle d'analyse va être large, délibérément large, peut-être un peu impressionniste, et si effectivement certaines des expérimentations dont je vais parler ne vous parlent pas ou que vous ne les connaissez pas, on pourrait revenir dans la discussion et je redonnerai quelques précisions. Donc, je ferai une présentation en trois parties. Une première partie dans laquelle je vais revenir relativement rapidement sur ce concept de transition écologique. Une deuxième partie dans laquelle je vais m'intéresser davantage à ces expérimentations. Je présenterai six formes que j'ai repérées et j'essaierai de montrer dans quelle mesure on peut commencer à dégager des affinités entre ces expérimentations. Et puis je terminerai dans une troisième partie en essayant de spécifier les conditions qui permettraient de solidifier l'assemblage. Donc pour moi, ou en tout cas pour lequel je pose l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui est en train de se former et qui pourrait donner forme à un idéal type alternatif à celui que Max Weber appelait celui de l'esprit du capitalisme, donc un esprit d'après-capitalisme ou quelque chose de ce genre. Donc je vais d'abord revenir dans une première partie sur cette idée de transition, puisque pour ceux qui fréquentent ce type de sujet de littérature, vous avez sans doute été amené à croiser deux grands types de littérature qui sont en train de se solidifier, d'acquérir des bases un peu plus solides, qui correspondent à deux manières d'aborder le sujet de la transition écologique. Une première manière que je qualifierais de par le haut, Et je mets beaucoup de guillemets parce que c'est à très gros trait. Et puis une deuxième manière que je qualifierais de par le bas. Donc une première manière qui serait plutôt en regardant les choses du côté des institutions et des milieux décisionnels, comme si ces milieux avaient une capacité presque synoptique et omnisciente à repérer les problèmes et dégager les solutions. Et une deuxième manière qui va m'intéresser davantage, qui est plus dans les formes populaires, communautaires, et communautaires plutôt au sens anglophone du terme. Donc effectivement, les premières manières dont vous avez sans doute entendu parler, une première manière qui est plutôt top-down, qui correspond à un courant qui commence à gagner pas mal d'audience, qui est celui du transition management. Je pense que... Oui, non. Alors, ok. Hormis pour les spécialistes de ces sujets. Donc, courant qui commence à gagner effectivement pas mal d'audience dans les milieux institutionnels, qu'on doit notamment à un groupe de chercheurs néerlandais, notamment autour de deux personnalités qui sont René Kemp et Jan Rothmans, qui ont effectivement proposé ce concept de transition management pour, non seulement pour réfléchir sur ces problèmes, mais aussi avec la perspective de pouvoir aider les responsables et les décideurs à construire, à engager ces processus de transition vers une forme de durabilité ou de soutenabilité. Alors, sans entrer dans le détail, c'est une approche qui est très marquée par ses origines intellectuelles, qui sont plutôt des angles sociotechniques, avec une sociologie très sociotechnique, une économie très sociotechnique, un très fort accent sur les innovations, avec même cette espèce d'arrière-plan qu'il faudrait effectivement susciter un ensemble d'innovations, et que ce sont notamment ces innovations qui nous permettront de passer vers un autre stade économique, et notamment dans lequel auraient été, si ce n'est éliminé, du moins fortement réduit les pressions environnementales. Donc une espèce de confiance dans les innovations, et une espèce de confiance en arrière-plan aussi, dans la capacité des institutions et des formes marchandes à nourrir et à entretenir ces innovations. Avec sans doute sous-entendu que voilà, ce sont des innovations notamment techniques. Donc, un arrière-plan relativement sociotechnique, essentiellement aussi gestionnaire, et qui débouche effectivement assez fréquemment sur des conceptions plutôt technocratiques. Donc c'est pas étonnant que ce type de théorie ait trouvé des prises et suscité une certaine audience dans les milieux institutionnels. Donc ça c'est la première, c'est du transition management plutôt top-down. Et puis une deuxième grande approche qu'on peut construire, qui est donc ce que j'ai appelé par le bas ou bottom-up, pour reprendre les termes anglophones, qui est plutôt l'approche qu'on trouverait dans des initiatives que vous connaissez peut-être aussi, qui sont les villes en transition, les transition towns. Donc là, pour le coup, l'angle de départ est totalement différent, hein, puisqu'il s'agit de construire des projets sur des bases essentiellement locales, sur des dynamiques notamment communautaires. Il s'agit de mobiliser des communautés effectivement sous des formes participatives plutôt, avec effectivement l'ambition d'amortir les conséquences à terme de ce qui serait le pic pétrolier, et là aussi de réduire les effets du changement climatique. Donc là pour le coup la perspective est totalement différente. Hein. On ne se soucie pas ou relativement peu, même s'il y a des efforts de connexion de la part de certains aspirateurs de ce que font les institutions, et on essaie de construire surtout par le bas, par le local, des initiatives qui devraient permettre de construire ce qu'on appelle la résilience, donc la capacité à résister à ces chocs exogènes qui seraient engendrés par le pic pétrolier et l'arrivée du changement climatique. Donc deux approches, je force le trait hein, pour bien faire la différence, donc deux approches qu'on peut considérer comme toute approche théorique, hein. Toute approche théorique est porteuse de vision du monde, et là en l'occurrence elles sont aussi porteuses de vision du monde, elles sont porteuses de philosophies du changement très différentes, comme vous le sentez peut-être, avec d'un côté effectivement plutôt un accent qui est mis sur les capacités institutionnelles, donc qui serait censé nourrir les dynamiques d'innovation, et puis d'un autre côté une forme de confiance pour les capacités communautaires et les capacités de la base. Donc moi c'est plutôt la deuxième qui va m'intéresser, je vais pas rentrer dans la grosse artillerie théorique, mais qui m'intéresse parce qu'on peut faire des formes de connexion avec ce qu'on appelle en sociologie, tout ce qui tourne autour de la lifestyle politics. Et ce qui m'intéresse aussi, ce sont les formes de dynamique réflexive qui peuvent se déployer à travers ces initiatives. Donc comment ces acteurs réfléchissent sur leur pratique et peuvent être amenés à repositionner leur pratique, donc en entretenant des espèces de boucles réflexives. Donc ce qui permet de faire des connexions avec la littérature sur la lifestyle politics, ce qui permet de faire des connexions aussi avec un courant de littérature qui est en train de se développer, notamment autour de chercheurs, c'est Jean Sefang, Adrian Smith, qui travaille sur ce qu'ils appellent les grassroots innovations, les innovations qui viennent de là-bas. Donc, perspective très intéressante, hein, et avec effectivement des travaux qui s'intéressent pour le coup aux initiatives de transition, et qui essaient de voir des innovations certes, mais cette fois-ci pas des innovations tellement techniques, mais plutôt des innovations sociales. Donc en insistant sur le fait que les innovations ne sont pas forcément techniques, et que dans les expérimentations, dans les approches communautaires, peuvent aussi prendre forme d'autres types d'innovations, et en l'occurrence sociales. Donc moi c'est ce qui m'intéresse. Alors, dans les expériences que je vous présentais, ça n'est pas forcément pensé de manière aussi construite et carrée que ce que je vais faire, mais je considère qu'il y a une forme de pensée systémique qui se construit aussi par ce biais-là, et qui essaie de montrer à leur manière que d'autres voies sont envisageables. Donc c'est ce que je vais faire dans cette deuxième partie, la présentation de ces expérimentations, qui, d'ailleurs, quand on les regarde un peu plus près, ne sont pas franchement complètement nouvelles. Il y a toujours une part d'ancien dans ces expérimentations. C'est aussi des formes de résurgence. La part de nouveauté n'est pas complète, hein. Ça ne sort pas de nulle part. Il y a une forme d'historicité qui est aussi présente. Et je dirais les choses aussi de manière un peu provocante avant de présenter ces expérimentations. Je dirais que si on voulait trouver des solutions aux problèmes environnementaux, grosso modo, les solutions, on les connaît. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour diminuer les pressions environnementales. On sait qu'il faut réduire les niveaux de consommation. Enfin, on le sait, quoi. Enfin, après, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas le voir. Mais on le sait qu'il faut réduire les niveaux de consommation. On sait qu'il faut désintensifier les échanges. On sait qu'il faut désintensifier les flux de matière, flux énergétique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Enfin, sans vouloir insister, donc on sait qu'il faut minimiser les ressources utilisées, donc les solutions, on les connaît. Enfin, voilà. Après, on peut s'en sortir avec des pirouettes en disant c'est la technologie qui va nous sauver, sauf que voilà, le niveau d'avancée technologique pour produire ou être en phase avec les enjeux à traiter est incommensurable. Donc, d'où moi mon envie d'aller voir effectivement ce qu'on peut appeler ces signes faibles, ces expérimentations, ces initiatives qui, pour le coup, essayent de mettre en œuvre ce type de solution qui s'y colle concrètement. Donc on peut en repérer effectivement, et Internet est un très bel outil, enfin, on a l'impression que ça fourmille de partout. Enfin, et quand on navigue sur Internet, on est, c'est une balade qui est quasiment infinie, on est promené d'initiative en initiative, parce qu'avec les hyperliens, c'est un vaste réseau qui semble en train de se prendre forme, avec toute une série d'initiatives très très créatives. Et comme je disais, moi ce qui m'intéresse, c'est pas seulement ce fourmillement qui est pour l'instant effectivement plutôt de l'ordre de la nébuleuse. Je vais reprendre un autre concept de Max Weber. Moi ce qui me semble intéressant dans la période actuelle, c'est qu'il y a des formes d'affinités électives qui semblent en train de se former entre toutes ces initiatives, qui ne se parlent pas forcément, mais qui peuvent partager un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, un certain nombre de visions éthiques. Il peut y avoir des pratiques qui peuvent se rejoindre à certains moments. Et c'est pour ça que j'avais envie d'introduire cette notion de dialectique, parce qu'effectivement, même si tout cela n'est pas encore solidifié, il y a cette espèce de quelque chose qui est en train de prendre forme et qui pourrait donner peut-être un autre projet, si c'est la version optimiste, ou en tout cas une forme de vision alternative par rapport au grand courant dominant. Alors, ce que je vous propose pour cette deuxième partie, c'est 6 expressions. J'aurais pu faire une liste un peu plus longue, puisque je m'intéresse aussi à un tas de choses, hein, comme les Fab Labs, hein, le potentiel aussi des imprimantes 3D, qui contiennent aussi ce potentiel de renouvellement, à mon avis très important. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, même si on pourrait y revenir. Je vais vous donner plutôt 6 expressions de ces expérimentations qui me paraissent davantage connectées au sujet. Une première sur... surtout, c'est toute cette notion de commun, ce souhait, cette volonté de restaurer des formes de commun, donc pour le coup, avec des formes d'organisation qui seraient en dehors de l'état du marché. Ça sera la première. La deuxième concernera toutes ces formes de partage, de collaboration, de consommation collaborative, qui sont également en train de prendre forme et qui essayent de jouer à côté des logiques consuméristes. La troisième, je vais reparler des dynamiques de localisation, ou les tentatives de relocalisation. Donc ces acteurs qui essaient de reconstruire des formes d'espaces locaux en essayant de recentrer leur action sur les espaces de proximité. Donc avec toutes les formes d'agriculture de proximité, les amas, enfin des choses que vous connaissez probablement. La quatrième forme d'expression qui paraît aussi liée à cet ensemble, c'est toute une série d'initiatives qui essaient de reconstruire des capacités autonomes, ce qu'on appelle le « do it yourself » en version anglophone. Donc là aussi, je vous donnerai quelques exemples de ces tentative de reconstruction de capacités autonomes. Une cinquième forme qui concernera les tentatives de réduction de ce que j'ai appelé le format de vie. C'est tout ce qui tourne autour de la simplicité volontaire. Donc ces gens qui essaient de vivre dans des modes moins consuméristes et sur des formats plus réduits, avec une vision non pas sacrificielle, mais une vision positive de la modération et de la sobriété. Et puis un dernier courant, qui sera connecté à celui-là justement sur effectivement cette tentative de développer d'autres formes de sobriété pour le coup qui ne soient pas punitives. Donc voilà, c'est les six que je vais présenter à relativement gros trait, puisque le temps est relativement monté. Donc la première sur les communs. Effectivement, il y a tout un courant de réflexion qui est revenu sur le devant de la scène dans les, on va dire, 10, 15 dernières années, voire 20 ans, si on est large. Un courant qui est nourri à la fois sur le plan théorique, donc sur ses communs, je pense à des travaux comme ceux de Tony Negri, que vous connaissez peut-être, qui me paraît un peu fumeux dans ses grandes analyses philosophiques, qui n'est pas très opérationnel. Si vous voulez dire Commonwealth, c'est un peu cette idée. Une fois qu'on a dit qu'il fallait restaurer les communs, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait pour restaurer ces communs? À part brasser des grandes idées philosophiques, c'est un peu à chercher bien loin. Il y a d'autres auteurs plus intéressants, à mon avis, de ce point de vue-là, qui sont David Bollier, qui a sorti un bouquin récemment avec un juriste américain, Bollier, B-O-2-L-I-E-R. Si les travaux un peu plus historiques vous intéressent, vous pouvez aller voir aussi du côté de Peter Lindbaugh, L-I-N-E-B-A-U-G-H. Donc il a essayé de refaire une espèce de parcours historique de la manière dont les communs ont pu se construire et ont été progressivement déconstruits par les dynamiques capitalistes et étatiques, pour dire les choses. À très très gros trait. Donc voilà, il y a ce courant théorique, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce courant n'est pas purement théorique. Vous prenez des gens comme David Bollier, effectivement, il y a des efforts pour construire aussi, en tout cas donner des formes d'incarnation à ce courant théorique. Donc David Bollier est l'animateur aussi d'un site assez important, assez dynamique, qui s'appelle On the Commons, qui brasse effectivement pas mal de réflexions, et qui pour le coup essaie à la fois de donner des ancrages concrets, et puis d'aller repérer les formes d'expérimentation qui pourraient se rapprocher de cette... ou de ces tentatives d'incarnation du commun. Donc avec ce souhait effectivement de reconstruire des formes de prise sur les ressources et de détacher ces ressources d'une forme de mobilisation, que ce soit public ou privé. Donc en essayant de construire un autre rapport au monde, en essayant de sortir du circuit des marchandises, etc. Donc ça rejoint aussi pour partie les travaux, là aussi vous connaissez peut-être d'Elinor Ostrom, donc travaux aussi très intéressants, et qui là pour le coup essaie de trouver des cas concrets à la fois actuels et historiques, donc sur les pêcheries, les forestiers, etc. Parmi les outils, les exemples. Alors, moi c'est pas tellement ces cas-là qui vont m'intéresser aujourd'hui, c'est pas seulement ceux-là que je vais vous présenter. Peut-être avez-vous entendu parler d'une initiative qui pour le coup essaie de reconstruire cette forme de commun, qui est celle des Incredible Edible, ou ce qu'on a traduit en France, les incroyables comestibles. Donc c'est une initiative qui parle d'une petite ville anglaise qui s'appelle Todd Borden, où un groupe de dames relativement respectables a décidé que on pourrait récupérer les espaces libres dans la ville pour y planter une espèce de potager collectif, ou des espèces de potager collectif. Donc plutôt que ces espaces soient laissés vacants, à ne rien faire, plutôt qu'on y plante des plantes d'ornement, ces dames se sont dit, autant récupérer ces espaces, et on va y planter des légumes ou des arbres fruitiers, qui permettront pour le coup de nourrir la collectivité. Donc en sortant effectivement d'une logique d'appropriation. Donc effectivement, n'importe qui pourra récolter et s'approprier. Bon, en tout cas, prendre la récolte le jour où cette récolte arrive à maturité. Donc des espaces disponibles, ou alors on récupère des vieux bidons, des vieux bacs, on plante des bacs devant chez soi, devant les côtes, partout où c'est possible. Alors, c'est une initiative, on en trouve d'autres, il y a un tas d'initiatives aussi locales qui sont en train de se faire au niveau des jardins partagés, des vergers partagés. Enfin, moi, dans la ville dont je suis originaire, la mairie a décidé de se faire ce genre de choses, de planter des pruniers, et quand les pruniers arrivent à maturité, chacun peut aller chercher les fruits et les cueillir dans la quantité qu'il le souhaite. Et le phénomène le plus curieux, c'est que les gens n'abusent pas, les gens sont relativement raisonnables, et n'en font pas forcément commerce, alors ça serait tout à fait possible. Bon voilà, un exemple d'initiative qui essaie de reconstruire une forme de commun. Alors, ces gens-là ne pensent pas forcément en termes de commun, et pas enfin, ne font pas forcément la connexion avec les travaux théoriques, mais quand on les lit ou quand on les écoute expliquer leur démarche, il y a cette espèce de tentative de reconstruire des communs. Et qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans les vies en transition, donc cette idée de changer la ville en mettant des arbres fruitiers plutôt que des arbres d'ornement, c'est aussi une idée qu'on trouve chez les gens qui défendent les initiatives en transition. Même si apparemment ils ne se sont pas concertés, mais visiblement ces idées ont, ou ce type d'idée a circulé. Ce qui m'amène à la deuxième expression, la deuxième, là aussi que je qualifierais à la fois d'expérimentation et de résurgence, pardon, puisque ce n'est pas non plus complètement nouveau, c'est tout un ensemble de, et là aussi c'est très foisonnant, hein, de démarches, d'initiatives qui essaient de réenclencher les formes de partage, qui essaient de prendre du recul par rapport à tout ce qui est propriété, possession, qui essaient de construire d'autres liens, et qui soient pour le coup en l'occurrence en dehors du marchand. Donc pas dans les versions commerciales, puisqu'il y en a des versions commerciales qu'on peut trouver, hein, ce qu'on peut appeler des communes fonctionnalités. Mais là aussi, sur les forums internet, on tombe sur une palanquée d'initiatives, de trocs, de sites de prêt, d'échanges de services, d'objets de plus ou moins quotidiens. Donc ça peut aller de bon, les classiques, hein, l'automobile et les équipements électroménagers, mais ça va aussi maintenant jusqu'aux places de parking, jusqu'aux trajets, enfin, jusqu'au matériel de puériculture, des gens qui sont... Enfin, en tout cas, ils sont prêts à mettre en place des formes de parfum pour échanger les biens dont ils n'ont plus forcément l'utilité. Pour le coup, le matériel de puériculture, effectivement, est assez rapidement périssable et qui essaie d'en faire profiter d'autres personnes. Donc, toute une économie que certains analystes ont qualifiée d'économie du partage, pour essayer de commencer à qualifier ce type de phénomène, ou ce que certains analystes américains ont appelé aussi des formes de consommation collaborative. Alors, qui peuvent prendre des formes assez hybrides. Moi, celle qui m'intéresse, c'est plus celles qui sont carrément en dehors du commercial. Mais assez souvent, des formes hybrides avec effectivement des tentatives de monétiser ce genre de choses. Et quand les Américains pensent consommation collaborative, c'est plutôt enfin, voilà, comme une forme de marché potentiel. Et c'est celle qui les intéresse. Donc là aussi, si vous souhaitez des références hein, et aller voir comment ça marche, et comment ça marche notamment de manière militante, je peux vous renvoyer vers des sites comme WeShare, mais oui, O-U-I, et chers comme le partage, ou des sites comme Shareable, qui sont effectivement intéressants dans le sens où c'est pas seulement la présentation d'initiative. Mais derrière ça, il y a aussi des formes de communauté qui semblent en train de prendre forme et de se construire. Donc c'est ce type d'initiative. Avec question d'arrière-plan qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas un effet générationnel qui est également en train de jouer, puisqu'apparemment, les gens qui défendent cette économie du partage considèrent que les jeunes générations sont plus enclines au partage et moins obsédées par la possession. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'écrits hein, qui essaient de défendre cette idée. Et effectivement, comme je disais, quand on va sur Internet et qu'on commence à rentrer dans ce type de réseau, on a l'impression que tout est partageable enfin, et que rien n'échappe à cette dynamique du partage. Donc je vous citerai deux exemples que là aussi vous connaissez peut-être ou qui ont peut-être été tirés aux oreilles. Peut-être avez-vous entendu parler du réseau qui s'appelle FreeCycle, qui est un réseau au départ américain, et qui pousse même un peu plus loin que la logique du partage et du prêt, puisque eux vont même jusqu'au don, et l'idée c'est effectivement de pouvoir céder, grâce à une plateforme internet, tous les objets qui n'ont plus une utilité, qui ont encore une utilité pour d'autres gens, mais pas forcément pour la personne qui les a achetés en première approche. Donc ça c'est un réseau qui s'appelle FreeCycle, avec des dynamiques également communautaires, et les formes de liens sont très intéressantes à étudier. Et puis peut-être avez-vous entendu parler aussi d'autres initiatives qui existent en matière alimentaire. Il y a par exemple un réseau allemand qui s'appelle Food Sharing, qui essaie de mettre en place ce genre de choses, en repérant aussi effectivement soit les producteurs, soit les grosses entités collectives qui n'ont plus l'utilité d'aliments. Et donc là aussi, à partir d'une plateforme internet, se débrouiller pour que ça serve à d'autres personnes et que ça ne finisse pas la poubelle en train de pourrir et sans utilité. Donc là, plutôt pour les surplus de produits alimentaires. Troisième forme d'expression qui m'intéresse, c'est cette fois-ci tout ce qui tourne autour des souhaits, des tentatives de relocalisation, ou les formes de restauration de proximité. Ce genre de choses vous est sans doute plus familier, puisque tout le monde maintenant connaît ce qu'on appelle les AMAP, les associations pour le maintien de la culture paysanne, qui, à mon avis, font là aussi partie d'une dynamique plus large. Donc, les médias ont fréquemment tendance à se focaliser sur cette initiative. Mais là aussi, je pense que le mouvement est plus large, qu'il y a effectivement une espèce de tentative de retour au local, à l'espace du concret par rapport à l'espace abstrait. Là aussi, hein, comme souvent, il faut sortir de France hein, pour bien se rendre compte des dynamiques. Aux États-Unis, il y a tout un mouvement hein, qui est en train de prendre forme, de se développer sur le, effectivement, l'idée de refaire du business, mais du business au niveau local. Donc de mettre l'accent sur des formes d'entreprise dont la logique serait essentiellement autour de réseaux locaux. Donc, pas seulement au niveau agricole, mais enfin, voilà, les petits détaillants également qui font l'effort de privilégier les réseaux locaux plutôt que de partir dans des grands réseaux à la Walmart aux États-Unis. Donc une attention pour la relocalisation, une attention pour la vulnérabilité des territoires, pour la préservation des ressources, avec effectivement un gros accent sur le local, et ce qui effectivement ramène à des choses qui sont assez connues hein, sur, le, voilà, sur les circuits courts, qui effectivement tentent d'incarner les AMAP, mais il n'y a pas que les AMAP hein, qui essayent de faire les circuits courts, peut-être avez-vous entendu parler aussi de, justement, il y a une espèce de buzz autour de cette espèce d'entreprise, la ruche qui dit oui, je ne sais pas si on en dit quelque chose, voilà. On retrouve cette même logique hein, de reconstitution de liens à la fois communautaires et locaux, dans la proximité. Donc là aussi, par une plateforme Internet. Internet a un grand rôle en la matière, parce que c'est très important de faire ces formes de connexion à distance sans forcément qu'il y ait besoin d'une grande implication. Les locavores aussi sont sans doute un nom dont vous avez entendu parler. Effectivement, ce mouvement qui essaie de porter une attention très forte, ce qu'on appelle les food miles, de sorte que les distances soient réduites entre le consommateur et le producteur, pour éviter tous les effets négatifs qui seraient des transports et des grosses unités de production. La quatrième expression, le quatrième type d'expérimentation que j'ai repéré, c'est moi ce que j'ai appelé les tentatives de reconquête ou de maîtrise des formats de vie. Donc effectivement, avec des initiatives qui essaient de retrouver le chemin de la simplicité. Donc c'est pour ça que je disais souvent, ce sont des résurgences aussi. Hein. Donc la simplicité volontaire, c'est pas un courant qui est récent, hein, qui a ses origines dans les années, fin des années 60 et des années 70. Et qu'on peut même faire remonter beaucoup plus loin hein, si on reconnecte à tous ces principes ascétiques hein, qui ont une histoire, même à la limite, plurimillénaire. Donc ces tentatives qui effectivement essaient de chercher d'autres modes de vie sur le mode de la simplicité, ou en tout cas détacher des tentations consuméristes et matérialistes. Alors, ce qui ne va pas sans difficulté, hein, parce qu'effectivement, autant on peut partir la fleur au fusil en se disant « je vais faire le maximum d'efforts », autant on peut se rendre compte assez rapidement que les efforts sont difficiles. Là aussi, il y a des exemples qui ont été médiatisés, qui sont assez intéressants. Peut-être avez-vous entendu parler du No Impact Man, c'est ce monsieur, ce journaliste qui lui s'était dit pendant un an, je fais l'effort pour le coup de vivre sur le mode de la simplicité volontaire et en s'épargnant toutes les tentations consuméristes. Donc c'est pas de transport en commun, marche à pied, vélo. Le monsieur habite New York, hein, il faisait plutôt d'un problème. Donc milieu que je suis donc qualifié de bobo, quoi, plutôt habitant de Brooklyn, enfin avec beaucoup de guillemets. Donc une femme qui travaille pour, je ne sais plus, c'est les médias, enfin le milieu de... Donc une épouse et des enfants qui n'étaient pas forcément très, très accessibles à ces questions de simplicité volontaire. Donc ça a été très facile, hein. Son couple a sérieusement été chahuté pendant cette période. Mais il en a sorti effectivement des choses assez intéressantes, donc un bouquin, un blog, sur cette tentative de limiter son impact au minimum. Alors, de manière assez curieuse, ces formes de simplicité, moi je les ai aussi retrouvées dans des milieux d'artistes technophiles, donc ces espèces de geeks, là aussi avec beaucoup de guillemets, qui sont très branchés à nouvelles technologies, et qui essaient de construire aussi des expériences alternatives sur le mode de la simplicité. Donc il y en a eu une pas loin de chez moi à Nice, où les gens sont partis, je sais plus, c'était 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude, et se sont dit, on va monter pendant... je crois que c'était une dizaine de jours, on montait une espèce de camp autonome. Et on est complètement autonome pour la nourriture, pour les communications, pour les sanitaires, et on essaye de fonctionner de manière autonome avec tous les procédés do it yourself, entre guillemets, qu'on peut trouver et qui nous permettent de vivre en respectant la nature qui nous entoure. Donc c'est ce qu'ils ont appelé les styles numériques. Oui, effectivement. Donc, c'est toilettes sèches, nourriture du cru, avec toute une série d'ateliers de bidouilles hein, pour expliquer comment est-ce qu'on monte une installation solaire, comment est-ce qu'on monte une installation éolienne, comment est-ce qu'on approvisionne, ou comment est-ce qu'on fait un serveur Internet sans avoir besoin de passer par les grandes entités bien connues sur le marché. Et là aussi, donc, de manière assez curieuse, hein, c'est pour ça que je parlais de résurgence, parce que, mine de rien, ces gens retrouvent des réflexions qui sont déjà, enfin qui datent déjà il y a plusieurs décennies, mais sans forcément s'en rendre compte. Donc ils retrouvent le chemin de, par exemple, Fritz Schumacher. Tout le monde connaît le slogan « Soyez Dieu diffus », voilà. Donc ils refont à 3-4 décennies de distance, mais concrètement, l'aspect de réflexion qu'avait fait Fritz Schumacher sur ce que lui avait appelé les technologies appropriées. Donc eux le font mais, concrètement, mais sans forcément avoir le bagage théorique, la littérature théorique en arrière-plan. Cinquième expression, donc cinquième manifestation de cette idéal type, c'est sur ce que j'ai appelé les tentatives de recodage hédoniste de la sobriété, de la modération. On a vu effectivement se développer toute une série de discours, et on continuera à se développer toute une série de discours qui essayent de recoder cette idée de sobriété, cette idée de modération, qui est effectivement fréquemment critiquée, parce que derrière la modération, il y a l'idée de l'ascèse, de sacrifice, et voilà. Dans un climat consumériste comme le nôtre, effectivement, ça peut paraître malvenu. Et donc, toute une série de discours qui essaient de faire un travail pour montrer que, bah oui, enfin, faire de la sobriété, de la modération, c'est pas forcément du sacrifice, et qu'on peut aussi avoir une vie tout à fait correcte, voire même plus agréable, sans forcément faire beaucoup de renoncements. Donc vous avez plusieurs porteurs hein, de ce type de discours, parmi les plus connus, je citerai Pierre Rabhi, qui effectivement a une audience assez favorable de la part des médias, donc je ne sais pas pourquoi, enfin, il y a d'autres acteurs qui pensent ce discours, mais oui, enfin, sociologiquement, après je peux l'expliquer, enfin, voilà. Mais je pas, c'était façon de parler. En tout cas, lui bénéficie d'une oreille attentive de la part de certains médias, alors que pourtant son discours a un arrière-plan spiritualiste qui peut poser question parfois, qui assez peu relevé par les médias. Donc lui, il reconnaît que des aspects de spiritualité qui mériteraient d'être grattés, à mon avis. Donc c'est son fameux mouvement des colibris, hein, dont vous avez peut-être vu une manifestation récente qui était bourrin et craqué, qui a refusé du monde au congrès, vous avez essayé de relancer leur initiative. La chose est aussi pensée de manière un peu plus théorique, par exemple par des philosophes comme Kate Soper, S-O-P-E-R, qui est une philosophe britannique, à qui j'ai emprunté cette notion d'hédonisme alternatif. Donc elle a travaillé, elle, un peu plus sur le plan philosophique, avec effectivement cette même idée hein, qu'on peut trouver tout à fait des manières de vivre, qui ne soient pas dans la consommation effrénée, mais qui permettent de continuer à vivre de manière tout à fait agréable, et sans diminuer pour autant ses sources de plaisir. Donc des idées qu'on trouve aussi sous le fameux slogan hein, « moins de bien, plus de lien », qui est porté aussi par certains courants de la décroissance. Un autre exemple de ce type de manifestation d'hédonisme alternatif, c'est un... Ok. Il va falloir aller très vite. Donc un courant qui est plus ou moins lié ou inspiré du mouvement slow food, mais qui essaie d'adapter la chose à la mode. Ça s'appelle slow fashion. Et l'idée, c'est effectivement de subvertir en quelque sorte le monde de la mode en incitant à trouver une forme vestimentaire qui soit alternative. Donc avec des expériences très intéressantes, comme par exemple vivre avec le même vêtement toute l'année. C'est-à-dire, pour les filles, c'est la même robe, sans faire de voyage, certains filles font des sourcils. Ou pour les garçons, vivre avec le même costume toute l'année, donc sans varier sur les effets de style, donc certes c'est un peu austère, mais on est sur du basique, et pour le coup c'est du slow fashion. Tentez le coup. Hein. Donc la même cravate toute l'année, hein, voilà. Moi j'ai pas de problème de ce côté. Sixième, dernière initiative, donc c'est ce que j'avais annoncé sur les capacités autonomes, sur le do-it-yourself, qu'on voit effectivement revenir sous diverses formes. Donc moi je disais, je m'intéresse aux imprimantes 3D, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Je vous donnerai deux exemples qui concernent les énergies alternatives. Une, donc sur l'éolien, dont j'ai eu l'occasion de discuter avec Christophe Santerre, qui est l'association Tripalium, qui essaie de fournir des espèces de stages pour former les gens à construire leur propre éolienne. Donc sur l'idée d'un monsieur qui s'appelle Hugues Pigott, qui lui-même avait fait cette initiative il y a déjà quelques décennies. Donc ils ont repris le principe, et l'idée c'est de former des acteurs locaux à voilà, comment on construit sa propre éolienne sans avoir besoin de passer par du matériel professionnel entre guillemets. Donc on trouve ça aussi pour le solaire. Il y a des associations franco-suisses qui font le même type de boulot pour le solaire, donc former à construire sa propre installation photovoltaïque ou solaire thermique. Et puis aussi des choses très intéressantes à mon avis sur l'hydroponique ou l'aquaponique, donc en essayant de coupler à la fois les cultures alimentaires avec de l'élevage de poissons, donc en mettant ça dans des containers qui peuvent fonctionner en boucle et qui permettent de produire. Donc c'est ce qu'on appelle l'aquaponie dans le jargon. Je reviendrai dessus éventuellement si vous le souhaitez. Donc j'ai été relativement vite, mais pas assez, sur ces six courants qui me semblent aller ensemble, qui me semblent manifester des formes d'affinité, de complémentarité. Et la question qu'on peut se poser, c'est, tant qu'à parler d'idéal type et d'affinité élective, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités de convergence entre tout ça? Moi, je dirais que potentiellement, oui, c'est une hypothèse que je fais, mais en ajoutant la précaution qu'il faudrait, pour que ces convergences se développent, il faudrait quatre conditions. La première, qui serait des liens entre les représentations des horizons visés. La deuxième, qui serait que ces expérimentations offrent des prises et des éléments reproductibles en dehors de leur propre champ. La troisième condition de convergence, ça serait que se forment des espaces de discussion et d'échange. Et puis la quatrième condition, ça serait que prennent forme et que se développent des dynamiques d'apprentissage. J'allais très vite sur ces quatre conditions. Sur la première, je dirais que on peut voir effectivement émerger des tentatives de construction de vision partagée. Le travail que font les initiatives de transition, effectivement, est plutôt sur ce créneau, avec une forme, pour le coup, réfléchie et consciente, de construction de cette vision et de présentation d'un autre avenir possible, en dehors du pic pétrolier et en dehors du changement climatique. Sur la deuxième condition, effectivement, si ces initiatives veulent trouver des convergences, il faut construire des passerelles, forcément, ou construire des modalités de coordination et d'articulation. Là aussi, il y a des tentatives de ce type, en essayant justement de jouer sur l'effet d'exemplarité, donc sur non seulement proposer l'expérimentation d'expérience, mais inciter à ce que cette expérience soit reproduite. Donc effectivement, les incroyables comestibles dont j'ai parlé tout à l'heure, non seulement ils plantent leur petit potager, mais fréquemment aussi ils mettent la pancarte pour montrer qu'effectivement il y a des gens qui ont fait ce genre de choses, et que s'ils s'appuient de reproduire, ça ne serait que mieux, et si elle était partagée, ça serait un atout supplémentaire. Donc il y a d'autres initiatives du même genre qui essaient de jouer sur l'effet d'exemplarité. Je pense aux zones de gratuité, par exemple, où l'idée, c'est on prend une rue, on prend un bout de quartier, et chacun arrive avec ses objets moins utiles ou peu utilisés, et les donne gratuitement en prenant son bout de trottoir, donc ça fait du bien entre les gens. Et c'est ce qu'on appelle une zone de gratuité. Troisième condition, effectivement, c'est sur la construction d'espaces de discussion, de dynamique communautaire, d'espaces d'échange. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que certains acteurs ont repéré cet enjeu et l'ont véritablement constitué comme un enjeu stratégique. Là aussi, Internet joue un rôle important. Et je pense par exemple aux initiatives de fondations qui font vraiment un gros, gros boulot là-dessus, qui sont très habiles dans l'utilisation de Facebook et des réseaux sociaux. Je pense par exemple à la P2P Foundation, qui est une fondation donc animée par un monsieur qui s'appelle Michael Bowen, qui est plutôt au départ branché sur les questions de peer-to-peer, comme son nom l'indique, mais qui rebondit sur ces questions-là pour les connecter à d'autres questions, comme par exemple la question des communs, et qui pour le coup essaie vraiment d'entourer une communauté, une dynamique de réseau capable de nourrir une partie des initiatives dont j'ai parlé. Il y a un autre exemple de fondation qu'on pourrait citer, c'est Apropédia également. Donc même principe, plateforme internet, avec l'idée cette fois-ci de présenter des technologies alternatives, des technologies appropriées, si possible le plus simple possible, et de les mettre en partage pour la collectivité. Donc une espèce de vaste encyclopédie, donc d'où le nom Pédia, mais cette fois-ci sur le principe des technologies appropriées, donc qui soient partageables. Et puis enfin, effectivement, dernière condition qui me semble importante, ces expérimentations sont intéressantes, ces initiatives sont intéressantes, Mais là où elles peuvent gagner en force, c'est si effectivement il y a des dynamiques d'apprentissage qui s'enclenchent, et pour le coup des dynamiques vraiment réflexives. C'est-à-dire qu'il y a des boucles, si des boucles réflexives s'enclenchent, elles peuvent augmenter le niveau d'apprentissage. Et là aussi, hein, il y a pas mal de choses intéressantes à repérer. Donc les gens hein, qui animent ces initiatives de transition sont très conscients hein, du retour à des réseaux. Ils font un gros effort hein, pour animer ces réseaux et essayer de faire passer ce qui pourrait être appris dans d'autres communautés. Donc voilà, j'étais très vite hein, sur la fin. Donc si vous m'avez bien suivi, hein, ce que j'ai ici montré, c'est donc cette espèce d'imaginaire, d'idéatique commun, hein, ces affinités électives qui me semblent en train de prendre forme si on fait une hypothèse relativement optimiste. Alors, je sais que ce que vous allez me dire, c'est voilà, peut-être un petit peu trop optimiste. La question, c'est effectivement une question classique, hein, qui est la masse critique que pourraient atteindre toutes ces initiatives. Effectivement, on en est encore relativement loin. On en discutait tout à l'heure, on a parté avant que la journée ne commence. Effectivement, les forces d'inertie qui entourent ces initiatives sont tellement lourdes que ça demande beaucoup d'énergie pour non seulement financer, mais en plus les perpétuer. Hein, comme d'habitude, la question, c'est pas seulement les lancer, voilà, c'est maintenir l'énergie, l'investissement personnel. Donc c'est une vieille question de la sociologie de l'association. Enfin, voilà, souvent, ces initiatives sont basées sur l'énergie et la motivation de quelques personnes dont l'énergie n'est pas inépuisable. Et de manière assez intéressante, hein, les gens qui pilotent ces initiatives de transition sont tout à fait conscients que les énergies sont pas inépuisables. Et c'est justement de mettre en place des systèmes de roulement pour éviter que les gens ne s'épuisent à former d'autres gens et qu'ils puissent passer le relais. Donc voilà, et pourquoi post-gouvernemental, puisque c'était ce vers quoi je voulais m'acheminer. J'avais été un peu présomptueux dans la manière dont j'ai intitulé le papier, mais l'idée c'était ça, enfin, c'était de faire une forme de reconnexion avec mes travaux précédents. Ce que j'avais essayé de montrer dans mes travaux précédents, c'est que le développement durable produit une forme de gouvernementalisation. Donc en m'appuyant sur le travail de Michel Foucault, donc, le développement durable, à mon sens, produit une forme de conduite des conduites, qui peut être assez directive, assez culpabilisatrice, assez surplombante, assez hétéronome. Et moi, ce qui m'intéressait dans toutes les initiatives que je vous ai présentées, c'est que justement, ces initiatives essaient de construire autre chose. Donc, post-gouvernemental, parce qu'on serait, non pas hétéronome, mais plus dans l'autonome, plus dans les capacités communautaires, et donc, pas dans une conduite des conduites, mais dans des conduites qui sont réfléchies. Donc voilà, on y reviendra si vous le souhaitez, c'est une forme de perche à côté de Michel Foucault, pour le coup. Merci.
Merci.